Chaud devant à Saint-Pierre pour la 3, une religieuse pour la 7 et une bouteille de Saint-Émilion pour la 12.
Moïse en entrée,
Jésus au dessert,
et comme plat principal,
combien Pierre prit-il de poissons lors de la pêche miraculeuse, et est-ce que ça lui a permis d'acheter un ordinateur pour son fils ?
Samuel ?
Oui Marc ?
Écoute, notre émission jusqu'à présent c'était à peu près sérieux, mais franchement là, va falloir que tu m'expliques.
Que je t'explique quoi ?
Ben, le thème de cette émission, ça devient n'importe quoi.
Mais pourquoi tu dis ça ?
Eh bien, combien Pierre prit-il de poissons lors de la pêche miraculeuse ? Et est-ce que ça lui a permis d'acheter un ordinateur pour son fils ?
Ça ne te paraît pas sérieux comme question ?
Non, je crois que tu dis n'importe quoi sur les premiers apôtres.
Qu'est-ce qui t'ennuie ? Que Pierre souhaite acheter un ordinateur pour son fils, c'est plutôt normal, non ? C'est utile un ordinateur, non ?
Bien sûr que c'est utile, c'est pas ça qui me choque. Moi je ferais pareil.
Alors, tu vois.
Mais le fils de Pierre, j'en ai jamais entendu parler. Pierre, c'est le premier pape. Eh bien, j'ai jamais entendu qu'il avait eu un fils.
Premier pape, il faudrait pas faire d'anachronisme. La papauté ne s'établira réellement qu'avec la reconnaissance de la religion chrétienne au IVe siècle. Quant à son fils, eh bien, on n'en parle pas directement dans les évangiles, c'est vrai. Mais on parle tout de même de sa belle-mère.
La belle-mère de Pierre ?
Oui, c'est l'une des premières guérisons de Jésus. Donc qui dit belle-mère dit forcément épouse, et qui dit épouse dit peut-être un enfant.
Ouais, peut-être. Bon, allez, va pour le fils de Pierre. Mais les poissons... Qu'est-ce que ça peut bien nous faire de savoir combien de poissons Pierre a pêché lors de la pêche miraculeuse ? De toute façon, on pourra jamais le savoir.
Tout dépend de quelle pêche miraculeuse on parle. Dans les évangiles, il y a deux récits de pêche miraculeuse. Et celle qui nous intéresse, c'est celle décrite par l'évangéliste Jean. C'est un passage intéressant car il se situe après la résurrection de Jésus.
Et après la résurrection de Jésus, les apôtres sont partis à la pêche ? Ils sont pas censés évangéliser partout ?
Eh bien oui, c'est surprenant, mais ils se sont remis à pêcher. Le métier qu'il faisait avant de rencontrer Jésus. C'est comme s'il n'était pas tout à fait sûr d'avoir vu Jésus vivant. Et là, Jésus leur apparaît, il leur dit de jeter les filets de nouveau, ils prennent beaucoup de poissons, ils reviennent sur le rivage, et Jésus les invite à manger le poisson. Ils comptent alors les poissons qu'ils ont pris, et il y en avait 153.
Ils ont pêché 153 poissons ?
C'est ce que dit la Bible.
Bon, c'est bien, mais qu'est-ce que ça peut nous faire ?
C'est la question que je te pose. Pourquoi l'évangéliste Jean prend la peine de nous dire qu'il y avait 153 poissons ? Si ce chiffre n'avait pas d'importance, il aurait certainement simplement dit « beaucoup de poissons », sans préciser le nombre.
Peut-être. En tout cas, moi, 153 poissons, ça m'évoque rien.
Si ça ne t'évoque rien, laisse-moi poser la question à quelqu'un d'autre. J'ai rencontré Jacques Schmitt, un homme qui a fait plusieurs stages sur le symbolisme dans la Bible. Et nous allons lui demander à quoi lui fait penser ce passage.
C'est un peu délicat de vous répondre dans la mesure où, justement, si on ne fait pas ce travail expérimental, on a... Ce que je vais dire pourra paraître tout à fait arbitraire d'une part, et d'autre part, je crains que n'ayant pas eu tout le travail d'acquisition qu'on peut faire au cours d'une journée où on travaille sur ce, avec un poisson devant soi, ça peut devenir un peu abstrait. Néanmoins, comme le symbolisme de ce mot a quelquefois été donné dans des livres, je vais essayer de travailler avec. Donc, si on travaille avec un poisson devant soi, on s'aperçoit d'un certain nombre de choses. Et si on réfléchit au poisson, bon, il vit dans l'eau, il est souvent caché, on peut l'attraper avec la main ou avec un filet. On peut, si on le devant soi le matin, l'après-midi, il sent extrêmement mauvais. Donc il y a tout un tas de caractéristiques du poisson qui peuvent nous conduire quand on se dit, mais analogiquement, qu'est-ce qui pourrait bien ressembler ou exactement exprimer le poisson ? On va probablement tomber sur quelque chose que de l'ordre du sens des choses. Donc, si on essaye de filer un peu cela dans le passage des 153 poissons, effectivement, Jésus fait pêcher du sens. Et le sortir de l'eau, c'est-à-dire d'un milieu plus indifférencié, dans lequel on prend toute son expérience, et d'où on va tirer du sens. Ça peut être une clé de lecture pour le symbolique, où effectivement le poisson se trouve dans beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et peut-être aussi que si on attribuait le poisson à Jésus, quelque part c'est aussi parce qu'il est le Verbe, et donc quelque part il apporte le sens définitif, si on peut dire les choses de cette façon. Quand on travaille Notamment sur la Bible, on peut en tirer du petit sens ou des gros sens. Hein. Quelquefois, on a l'impression d'avoir compris une petite chose, donc c'est un petit poisson. Ou on peut avoir l'impression d'avoir compris, reçu, j'aurais peut-être un meilleur terme que compris, reçu une illumination et donc un gros poisson. Donc les disciples ont été assez heureux pour en tirer 153, qui lui aussi certainement a un sens symbolique. Jonas, c'est très intéressant parce que Jonas se fait avaler par le poisson, donc il se fait avaler par le sens. Quelquefois, le sens peut non seulement être quelque chose que l'on absorbe en soi et qu'on va avoir maintenant comme un élément de référence, mais quelque chose qui est tellement, nous dépasse tellement. Et donc, je pense que sur le plan religieux, il y a beaucoup de sens qu'on ne pourra pas prendre nous-mêmes, mais qui nous absorbe complètement. Donc ça peut être une lecture qu'on peut avoir. Un point, moi, qui m'a beaucoup frappé quand j'ai travaillé le poisson, c'est justement ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait qu'il sente très mauvais et qu'il soit tout à fait immangeable au bout de très peu de temps. Autrement dit, il faut repêcher toujours les mêmes poissons. Quand vous avez pêché une truite, vous repêchez une autre truite. Mais si vous ne mangez pas tout de suite, et si vous n'êtes pas dans le vivant et dans le travail, que vous ressassez le sens que vous a donné un maître, vous êtes sûr de manger du poisson pourri et c'est extrêmement toxique, pour l'esprit en tout cas.
Alors, c'est intéressant, non ?
Le poisson sera le symbole du sens, le sens des choses, toujours difficile à saisir.
Peut-être nous faut-il continuer d'aller à la pêche au sens des choses. Je vais poser la question du symbolisme des poissons et de leur nombre à Pierre Perrier. C'est un chercheur qui a beaucoup étudié les structures orales des évangiles.
Alors, chaque fois qu'il y a un nombre dans l'évangile, il a sens. On ne peut pas imaginer que les apôtres aient rajouté comme ça des petits noms. Il y a quelque chose qui les a frappés. Moi, je pense qu'il y a dû y avoir 153 poissons. Et puis quand ils les ont comptés, au début, ça a dû les intriguer parce que c'était un chiffre qui était bien connu dans ce milieu-là. On connaissait bien ce qu'on appelle la gloire du nom, c'est-à-dire que, par exemple, 1 plus 2 plus 3, ça fait 6, plus 4, ça fait 10, plus 5, ça fait 15, et 15, c'est la gloire de 5. Hein. Donc il y a une habitude de savoir... Qu'est-ce que veut dire quelque chose qui s'ajoute finalement par rapport au nombre, un nombre un peu plus grand qui est obtenu en ajoutant toutes ces composantes, tous les chiffres successifs, comme quelque chose qui s'accroîtrait de soi-même. Et donc là derrière, il y a ce 153, il y a bien entendu, et c'est pas du tout par hasard, il y a peu de nombres aussi déjà importants qui correspondent à ça, c'est la gloire de 17, c'est-à-dire la somme de 1 plus 2 plus 3, etc., jusqu'à 17. Et donc il faut se retourner vers la question, quelle est cette chose particulière qu'on pêche, qui est des poissons, qui a cette chose un peu particulière qu'a un poisson, quand on le prend dans la main, ça glisse, il faut vraiment le prendre au filet pour arriver à le tenir, il faut vraiment bien le tenir. Donc qu'est-ce qui a un rapport entre ce filet et puis ce chiffre de 17 et le fait que ça a conduit à avoir 1 plus 2 plus 3, etc., plus 17 égale 153 poissons. Et alors, la tradition là, de tous les peuples oraux, c'est de dire, attention, quand vous avez ça, il y a derrière, on veut mettre en valeur le chiffre de base, puisque, et donc qu'est-ce que c'est que ces 17 ? Alors, quand on regarde en détail l'ensemble des prédications de Jésus, telles que les 12 apôtres les ont recueillies, on s'aperçoit que les 12 apôtres, plus Marie, plus quelques apôtres qui ont fait plusieurs colliers, c'est des ensembles qui sont au nombre de 17 et qui sont les 17 composantes de base de l'évangile, de la bonne nouvelle. Et donc c'est comme si dans cette pêche des poissons, chaque homme avait recueilli une petite parcelle de cette bonne nouvelle, celle qui était faite pour le toucher particulièrement, et cette petite parcelle, toute cette petite parcelle, c'est tous ces hommes mis ensemble qui, eux, ont reçu cette petite parcelle de la bonne nouvelle et qui sont déjà en train de s'accroître en nombre. Qui c'est qui a reçu cette parcelle de la bonne nouvelle ? Eh bien, c'est les apôtres qui ont écouté Jésus, qui ont reformé ces 17 colliers, ces 17 ensembles d'enseignements. Et ils pêchent, Jésus leur apprend où pêcher, quand lui le veut, quand lui a réuni les poissons, quand à chacune des paroles importantes de ce qu'il a dit, s'est trouvé une oreille pour écouter, s'est trouvé quelqu'un qui a pu être pris après dans le filet du royaume. Voilà.
Est-ce que le fait que l'évangéliste indique que ce sont des gros poissons a une importance ?
Ah oui, parce que là, c'est important, parce que dans la façon dont Jésus propose de faire la nouvelle évangélisation, la première évangélisation, donc pour nous la nouvelle évangélisation, il y a deux niveaux. Il y a un niveau qui est la famille, et dans la famille, c'est le père, ou mieux la mère, souvent, à la maison, qui est responsable de la maison, et qui va faire qu'avec ce gros poisson, toute la maison va venir. C'est tous ceux qui sont autour de ce gros poisson, dont la foi est essentielle pour que d'autres viennent à la foi. Un petit peu comme dans une famille, quand le père de famille met la foi de côté dans un petit coin, etc. Alors la femme peut essayer de tenir la flamme ouverte, éclairée pour les enfants, mais si le père et la mère sont là tous les deux, et qu'on voit bien que c'est le cœur de la famille qui est présent et qui reçoit la parole de Dieu, alors tout le monde peut rentrer tout naturellement dans la transmission, dans la réception, donc après dans la transmission de la parole. Donc la nouvelle évangélisation peut partir comme cette pêche, à condition qu'il y ait des gens qui ont été formés, un petit peu comme les apôtres, et qu'après, ils sachent que c'est la grâce de Dieu qui va agir et qui va réunir tout ce qu'il faut au moment où ils lanceront le filet de la bonne parole.
Alors, tu en penses quoi ?
Les apôtres pêchent 153 poissons. Ce qui ferait référence à la gloire de 17. Et ce 17 correspondrait au nombre de colliers, de récitatifs oraux des premiers apôtres. C'est intéressant, mais ça nécessite d'être approfondi. Je peux pas avaler ça comme ça, tout cru, moi.
Alors peut-être qu'il faut faire griller un peu ton poisson. En tout cas, j'espère que cette émission t'aura donné envie d'approfondir l'approche symbolique que l'on peut avoir avec les évangiles. Et nous n'avons abordé ici que deux aspects, mais il y en a bien d'autres.
Il y en a d'autres ?
Oui, par exemple, 153. Figure-toi qu'à l'époque de Jésus, c'est aussi le nombre de Shabbat qui correspond au rythme des lectures.
C'était Moïse en entrée,
Jésus au dessert,
une émission dans la dynamique du Festival de la Parole,
présentée par Samuel et Marc Landon.
Plat du jour de la semaine prochaine,
quelques mots sur le Festival de la Parole.